sur France Culture, il est 18h, c'est l'heure du journal. Aurélie Kiefer, bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. L'escalade de violence dans la région d'Idlib en Syrie, Emmanuel Macron fait part de son extrême préoccupation après la mort de nombreux civils ces derniers jours. À Istanbul, l'opposition dénonce un putsch contre les urnes après l'annulation de l'élection municipale à la demande du parti au pouvoir. Reportage d'Anne Handlauer. Promesse tenue, affirme Édouard Philippe. Les réponses gouvernementales à la crise des gilets jaunes sont bien concrètes et le pouvoir d'achat moyen par habitant va progresser de plus de 2% cette année. L'Assemblée se penche sur les difficultés des jeunes majeurs sortant de l'aide sociale à l'enfance. Objectif affiché, renforcer l'accompagnement de ces jeunes vulnérables vers l'autonomie. Emmanuel Macron demande l'arrêt des violences dans la région syrienne d'Idlib. Les frappes du régime et de ses alliés ont tué de nombreux civils ces derniers jours, note le président, qui souligne combien la situation humanitaire en Syrie est critique. Depuis hier, des affrontements dans le dernier bastion djihadiste de Syrie ont fait une cinquantaine de morts parmi les combattants et au moins 13 civils auraient été tués dans des raids aériens. En septembre 2018, Moscou et Ankara s'étaient mis d'accord pour créer une zone démilitarisée séparant les territoires insurgés des zones gouvernementales. Cela devait garantir un arrêt des hostilités. Mais le régime syrien poursuit ses bombardements et les frappes ont gagné en intensité ces derniers jours, Aurélien Colli.
Ce sont les bombardements les plus intenses sur Idlib depuis septembre, depuis l'entrée en vigueur de l'accord entre Moscou, le parrain du régime syrien, et Ankara, soutien des rebelles. Ils ont visé la zone démilitarisée au sud de la province d'Idlib, un déluge de feu selon des habitants, qui a touché des villages, des hôpitaux, des écoles, confirment des ONG sur place, qui a poussé aussi quelques 30 000 civils à fuir vers le nord de la province, pendant que l'armée syrienne avançait aussi au sol dans la province voisine de Hama. Avec cette intensification des frappes et ses mouvements de troupes, les factions rebelles d'Idlib s'attendent désormais à une offensive du régime, car Damas n'a jamais caché son intention de reconquérir Idlib, même si son indispensable protecteur russe l'a jusqu'à présent freiné. Si offensive il y a, elle serait alors limitée, estiment aujourd'hui plusieurs analystes, pour grignoter certains secteurs, pour tenter aussi de rouvrir deux autoroutes essentielles au régime syrien qui traverse Idlib, mais sans s'aliéner pour autant la Turquie, parraine des rebelles, restée très discrète face à cette escalade. Elle conserverait son influence au nord d'Idlib, le long de sa frontière. Elle a aussi besoin d'avoir les mains libres ailleurs dans le nord de la Syrie pour bombarder les poches kurdes, ennemis jurés d'Ankara.
Le président turc se félicite de l'annulation de l'élection municipale d'Istanbul. Le 31 mars, le scrutin avait été remporté par Ekrem İmamoğlu, candidat commun de plusieurs partis d'opposition. Mais l'AKP, le parti de Recep Tayyip Erdogan, avait aussitôt dénoncé des irrégularités et le Haut Conseil électoral a accédé hier à sa demande d'annulation. L'opposition, elle, qualifie cette décision de putsch contre les urnes. Elle participera malgré tout au nouveau scrutin programmé le 23 juin. Dans les rues d'Istanbul, les électeurs d'Ekrem İmamoğlu expriment leur déception et leur colère. Le reportage d'Anne Handlauer.
Assis devant son commerce de fruits secs, Hasan Bozoğlu le reconnaît avec amertume. Il ne s'attendait pas à ce que le Haut Conseil électoral annule la victoire d'Ekrem İmamoğlu, le candidat de l'opposition pour lequel il avait voté.
Cela fait 70 ans que des élections libres ont lieu en Turquie et jusqu'ici, les perdants avaient toujours accepté leur défaite. C'était ce qu'il restait de plus précieux à notre démocratie. Là, je suis sous le choc. Je ne comprends pas pourquoi le Haut Conseil électoral a fait ça. Il n'aurait pas dû salir la légitimité de notre système électoral. Maintenant, comment les gens vont-ils avoir confiance? À chaque nouvelle élection, il y aura toujours un soupçon.
Aysel, une enseignante à la retraite, est elle aussi en colère. Pour elle, le plus incompréhensible est que les Stambouliotes avaient voté 4 fois le 31 mars. Pour le maire de la ville, celui de leur arrondissement, celui de leur quartier et le conseil municipal. Mais seule l'élection du maire d'Istanbul a été annulée.
Soit on annule tout, soit rien, non? S'ils avaient tout annulé, j'aurais dit, d'accord, il y a peut-être vraiment eu des irrégularités. Mais en fait, le pouvoir veut juste annuler l'élection qu'il a perdue. Mais j'en suis sûre, l'opposition va gagner à nouveau, parce que les gens sont en colère. Nous sommes en train de perdre notre démocratie. Nous ne pouvons plus parler librement. Nos jeunes veulent quitter le pays. Il y a bien une raison.
Une chose est sûre, Recep Tayyip Erdogan fera tout ce qu'il peut pour l'emporter le 23 juin, car une nouvelle défaite serait une catastrophe pour lui.
Le pape poursuit son voyage dans les Balkans. Après la Bulgarie, il a fait étape en Macédoine du Nord, pays où est née Mère Teresa. François a d'ailleurs dédié une prière à la religieuse qu'il avait canonisée en 2016. La Macédoine du Nord est une mosaïque de nationalités et de confessions et le pape a salué cette composition multiethnique et multireligieuse comme le plus précieux patrimoine de ce petit pays d'un peu plus de 2 millions d'habitants. On retrouve Mathilde Imberti à Skopje.
Le pape s'incline devant la statue de Mère Teresa, face au mémorial qui lui est dédié dans le centre de Skopje, un bâtiment érigé sur les ruines de l'église où elle a été baptisée en 1910. Un siècle plus tard, son exemple doit nourrir les jeunes générations, estime le pape.
Vous êtes fiers de cette grande femme et à juste titre. Je vous exhorte à continuer de travailler avec engagement afin que les fils et les filles de cette terre puissent à son exemple mûrir la vocation que Dieu a rêvée pour eux.
C'est à la fondatrice des missionnaires de la charité que les Macédoniens doivent cette visite papale. C'est pour elle et pour lui que le jeune Emmanuel se trouve dans la foule.
J'ai fait le trajet de l'Albanie pour venir voir le pape et puis ici, en Macédoine du Nord, les Albanais sont nombreux. Mère Teresa elle-même était d'origine albanaise. Pour nous tous, c'est comme une grand-mère.
Ce fidèle catholique est marié à une musulmane. C'est ça la mosaïque des Balkans, s'enthousiasme-t-il, alors que le pape, dans son discours aux autorités, en loue les vertus.
La diversité de l'appartenance religieuse, tout comme la distinction ethnique, ont créé une mosaïque dans laquelle chaque pièce est nécessaire pour parvenir à un tableau d'ensemble original et beau.
Un message d'espoir pour la Macédoine du Nord, tout juste rebaptisée ainsi et sortie d'un long conflit avec la Grèce, petit pays de 2 millions d'habitants qui espère engager bientôt des négociations d'adhésion à l'Union européenne.
Mathilde Berti, notre envoyée spéciale à Skopje. On part au Brésil où depuis l'élection de Jair Bolsonaro, trois ethnies brésiliennes se plaignent d'invasions et de pillages sur leur territoire en Amazonie. Une mission d'Amnesty International s'est rendue sur place dans le nord du Brésil et elle confirme un réel risque de violence. Selon l'ONG de défense des droits de l'homme, il pourrait même redoubler avec la saison sèche qui dure de mai à octobre. On retrouve Anne Vigna au Brésil.
C'est le même constat que font déjà toutes les organisations brésiliennes qui défendent les Indiens. Depuis janvier dernier et l'élection de Jair Bolsonaro, les communautés autochtones sont attaquées, leurs terres pillées et l'État brésilien ne fait rien contre ces violences. Amnesty International, en mission en Amazonie brésilienne, a pu vérifier la fragilité dans laquelle se trouvent les communautés indiennes depuis cette élection. Dans les trois territoires visités par la mission, les experts de l'organisation internationale ont vu les mêmes risques de violences imminentes contre ces communautés et les intrusions illégales sur leurs terres. Malgré les demandes répétées pour protéger ces communautés, aucune action n'a été entreprise par le gouvernement pour éviter ces invasions qui signifient aussi le pillage de ressources naturelles en Amazonie. L'ONG brésilienne Imazon a confirmé que depuis janvier dernier, la déforestation est en nette augmentation en Amazonie, un accroissement de 64% par rapport à la même période en 2018. Cette situation était attendue par la plupart des ONG suite à l'élection de Jair Bolsonaro. L'actuel président brésilien a toujours critiqué le fait que les communautés indiennes bénéficient d'un droit inaliénable sur 9% du territoire brésilien. Il a par ailleurs défendu à de nombreuses reprises les envahisseurs et justifié la coupe illégale de bois. Ceux qui attaquent les territoires indigènes pour les piller se sentent aujourd'hui bien protégés pour redoubler leurs méfaits.
Le Royaume-Uni est en émoi depuis hier. Le prince Harry et son épouse Meghan sont devenus parents et les Britanniques guettent avec impatience l'annonce du prénom de ce bébé royal. Mais le fisc américain s'intéresse également de près au nourrisson, ou du moins à sa fortune. Le bébé étant de nationalité américaine, le service des impôts aux États-Unis devrait pouvoir accéder à de nombreuses informations sur la richesse du couple et de la famille royale, Gregory Phillips.
Le Royal Baby a la double nationalité, britannique bien sûr, mais aussi américaine par sa mère. Et comme tout citoyen des États-Unis, quel que soit son lieu de naissance ou de résidence, il devra rendre des comptes à l'IRS, l'administration fiscale de ce côté-ci de l'Atlantique. Si Harry et Meghan, par exemple, décident d'ouvrir un compte en banque à leur enfant, eh bien il devra être déclaré à l'IRS. Si la reine offre au bébé un cadeau d'une valeur supérieure à $100,000, même chose. Enfin, Meghan, devenue duchesse, va devoir aussi déclarer au fisc américain sa fortune. La maison du couple à Windsor, le diamant offert par le prince pour leur fiançailles ou encore la bague offerte par la reine pour leur mariage. Indirectement, le fisc américain aura donc accès à une partie des comptes de la monarchie britannique. Seule solution pour éviter cela, que Meghan renonce à sa nationalité américaine. Même chose pour l'enfant, mais qui de toute façon sera soumis à ses règles jusqu'à son 18e anniversaire.
Et les élections européennes se tiendront le 23 mai au Royaume-Uni. Si les députés britanniques adoptaient un accord de Brexit d'ici là, le texte devrait ensuite être ratifié. Le délai est donc trop court pour envisager d'annuler le scrutin européen. Les annonces ont bien été suivies d'effets. C'est le message que tient à faire passer le chef du gouvernement. À la sortie du Conseil des ministres ce midi, Édouard Philippe a dressé un bilan des mesures énumérées le 10 décembre par le chef de l'État en réponse au mouvement des Gilets jaunes. Le pouvoir d'achat moyen par habitant va progresser de plus de 2% cette année, souligne le Premier ministre. Et il insiste, c'est la plus forte augmentation depuis 12 ans. On sent la volonté de convaincre, Stéphane Robert.
Oui, Édouard Philippe s'est évertué à dresser un bilan très détaillé et très chiffré près sur la prime d'activité, sur la prime spéciale versée par les employeurs ou encore sur la défiscalisation des heures supplémentaires.
Aujourd'hui, ce sont plus de 4 millions de foyers qui touchent la prime d'activité. Nous avons donc, sur une année 2019, cette mesure représentera 3 milliards d'euros redistribués aux Français. C'est plus de 2 milliards d'euros qui ont été versés à 5,5 millions de salariés pour un montant moyen. Au premier trimestre 2019, 6,8 millions de salariés ont effectué des heures supplémentaires.
À l'issue de ce bilan très technique et très techno, le Premier ministre s'est défendu de se livrer là à un pur exercice de pédagogie et de communication.
Je ne crois pas qu'on puisse reprocher à un responsable gouvernemental d'expliquer des mesures, surtout lorsque l'impact est réel, car il est essentiel de non pas communiquer, mais d'expliquer ce que nous faisons. Parfois, on fait ce reproche aux responsables politiques de faire des annonces qui ne seraient pas suivies des faits. Bien, ce que je suis venu vous dire, c'est que les annonces du président de la République, elles sont suivies des faits. Elles se traduisent par plus de pouvoir d'achat pour les Français. Il est bon de le dire, bon dans un exercice démocratique bien compris. Je vous remercie beaucoup. Bonne journée.
Le Premier ministre a voulu montrer là que le gouvernement est au travail, au service des Français, qu'il n'a pas attendu la fin du grand débat en se tournant les pouces. Mais cette prise de parole s'inscrit dans une offensive médiatique beaucoup plus large du Premier ministre depuis quelques jours. Depuis la conférence de presse d'Emmanuel Macron il y a 10 jours, censée marquer la fin du grand débat, c'est lui, Édouard Philippe, qui a pris la main. Il a tenu un séminaire gouvernemental en début de semaine dernière, avant de délocaliser une partie de son gouvernement en Charente quelques jours plus tard. Hier, il a reçu les syndicats et les représentants d'associations à Matignon pour essayer de renouer les liens. Ensuite, il est allé hier soir soutenir Nathalie Loiseau à l'occasion d'une réunion publique qui se tenait à Caen, en Normandie. Bref, on est en campagne électorale, mais l'heure est grave, il n'y a pas de dynamique en faveur de la majorité. Et manifestement, Emmanuel Macron considère que son Premier ministre, à moins de 3 semaines des européennes, est un atout dans cette campagne, notamment sans doute pour essayer d'inciter l'électorat de la droite modérée à aller voter.
Stéphane Robert, les enfants placés peuvent quasiment du jour au lendemain passer d'une famille d'accueil à la rue. Chaque année, seul un tiers des jeunes sortant de l'aide sociale à l'enfance se voit proposer un contrat jeune majeur qui permet une prise en charge à la majorité. Le budget dédié à ces jeunes majeurs va passer de 12 à 60 millions d'euros par an. C'est Adrien Taquet, le secrétaire d'État chargé de la protection de l'enfance, qui l'a annoncé hier soir à l'Assemblée. Et ce soir, les députés examinent une proposition de loi portée par l'élue LREM, Brigitte Bourguignon, dans le but de lutter contre les sorties sèches de l'aide sociale à l'enfance. Mais le texte est critiqué, Antoine Geoffin.
Pour un département, l'aide de l'État est faible. Exemple, le Bas-Rhin, 2,8 millions d'euros, c'est son budget annuel pour l'aide aux jeunes majeurs vulnérables. Or, l'État ne lui verse que 155 000 euros. La proposition de loi veut rendre obligatoire la prise en charge par les départements de tous les moins de 21 ans fragiles via des contrats d'accès à l'autonomie. Louable, mais irréalisable avec ce budget, selon Frédéric Bierry, président du conseil départemental du Bas-Rhin.
Même si la contribution augmente, elle ne couvrira qu'un tiers de la dépense. Et une dépense qui elle-même devra augmenter parce que les exigences de la loi sont telles que de toute façon, moi, mon budget, il faudrait pratiquement que je le double ou que je le triple. Les moyens qui sont proposés aujourd'hui par le gouvernement dans le projet de loi seront nettement insuffisants pour faire face aux enjeux.
Le département devrait désormais garantir un logement, orienter les jeunes vers des formations, des bourses. Brigitte Bourguignon, qui porte ce texte, rassure. Si les départements adoptent des comportements vertueux, on mettra des financements en place. Cela les incitera à préparer l'autonomie avant 18 ans, dit son entourage. Mais ce sont les conditions d'accès au contrat d'accès à l'autonomie contenues dans l'article 1 de la PPL, la proposition de loi, qui font tiquer l'IS loufoque. Il est membre du Conseil national de protection de l'enfance.
Il prévoit même des conditions de durée de placement. C'est inédit, nous n'avions jamais vu cela. Il faut maintenant pouvoir justifier de 18 mois de placement dans les 24 mois précédant la majorité, et ce qui va du coup exclure une bonne partie de la population des jeunes majeurs actuels, et notamment les mineurs non accompagnés, mais aussi les victimes de la traite des êtres humains, parce que s'il faut encore le rappeler, il y a de plus en plus de jeunes filles prostituées que l'aide sociale à l'enfance et que la justice est obligée de protéger durant la minorité, et bien souvent à 17 ans, cette jeune fille à 18 ans se retrouveront de nouveau sur le trottoir parce que la PPL leur refuse l'accès à ces contrats.
Et des discussions sont prévues avec Beauvau pour trouver une solution pour ces jeunes, une fois leur majorité atteinte, assure ce soir l'entourage de la députée Bourguignon.
La tuberculose est de nouveau en augmentation en Île-de-France. Selon les chiffres de l'agence Santé publique France, près de 2000 personnes sont atteintes de tuberculose dans la région la plus touchée par cette maladie. Et l'incidence est 4 fois supérieure à la moyenne nationale en Seine-Saint-Denis. Les plus concernés, Pierre-François Plessis, sont les personnes en situation de précarité et les étrangers, notamment les jeunes adultes.
En France, oui, ce sont les étrangers les plus touchés par la tuberculose, notamment les personnes d'origine subsaharienne. Pour Agnès Lepoutre, épidémiologiste à la cellule Île-de-France de l'Agence nationale de santé publique, les flux migratoires expliquent la concentration de la maladie dans la région.
Dans certains pays où il y a une majorité des gens qui ont, de toute façon, été en contact avec la tuberculose et ont une infection latente, qui vont ou pas développer. Et après, les conditions de vie difficiles, la promiscuité, va favoriser une réactivation et donc un développement de la maladie à partir d'une infection latente.
La tuberculose se soigne assez bien lorsqu'elle est prise en charge suffisamment tôt. Le problème, c'est qu'elle est particulièrement contagieuse. Elle est donc à déclaration obligatoire et les autorités restent vigilantes.
C'est pas quelque chose qui soit alarmant, ça reste une maladie peu fréquente en Île-de-France comme dans tous les pays industrialisés, mais néanmoins ça attire l'attention sur le fait que la tuberculose n'a pas disparu et qu'il faut prêter attention et inciter à repérer et à traiter rapidement les cas, y compris chez des personnes en situation précaire.
Pas d'inquiétude donc au niveau national, mais au niveau mondial, la tuberculose est la maladie infectieuse la plus meurtrière, avec plus d'1,5 million de morts par an, les trois quarts en Inde.
En septembre 2009, il avait évoqué une mode des suicides à France Télécom. Didier Lombard, PDG de l'entreprise de 2005 à 2010, est jugé depuis hier devant le tribunal de grande instance de Paris pour harcèlement moral avec d'autres anciens dirigeants de France Télécom. Ce qu'il aurait reproché, c'est la mise en place d'une politique d'entreprise visant à déstabiliser les salariés et à créer un climat professionnel anxiogène dans le but de réaliser un vaste programme de restructuration. Didier Lombard a été entendu cet après-midi, Antoine Marette.
L'homme qui est au centre de ce procès s'exprime avec calme et assurance. À aucun moment il ne semble déstabilisé par les questions de la présidente. Son prestigieux CV défile, Polytechnique, École des Télécoms. Il devient ingénieur au PTT et après une longue parenthèse au sein des ministères de la Recherche et de l'Industrie, il retourne en 2003 dans sa maison d'origine devenue France Télécom. Deux ans plus tard, Thierry Breton devient ministre et par un jeu de chaise musicale, Didier Lombard prend sa succession à la tête de l'entreprise. Il décrit une situation apocalyptique. La maison était en péril à cause du surendettement, de l'agressivité de la concurrence et des évolutions technologiques. L'ancien patron lit une lettre d'une page et demie qu'il introduit par cette phrase « Je veux dire aux collaborateurs de France Télécom ainsi qu'à leurs familles mon profond chagrin pour ceux qui n'ont pas supporté la transformation imposée à l'entreprise. » Car pour Didier Lombard, il fallait faire ce qui a été fait. La preuve, en 2009, France Télécom se portait mieux et était reconnu comme un acteur important du monde numérique. Il reconnaît juste du bout des lèvres que les mesures d'aide à la transformation n'étaient pas adaptées à l'égard de certains. Et quand la présidente lui demande si, selon lui, la transformation s'est bien ou mal passée, il montre du doigt une crise médiatique en 2009 qui, selon lui, a cassé le moral des collaborateurs. Si vous parlez des suicides, vous les multipliez. C'est pour ça que j'ai parlé de mode des suicides, conclut-il, tout en regrettant son expression.
Antoine Marette au Palais de Justice de Paris. Jean Vanier s'est éteint cette nuit à Paris à 90 ans. Jean Vanier avait fondé l'Arche en 1964, cette association qui accueille dans des lieux de vie des personnes ayant un handicap mental avec leurs accompagnants. Jade Péchiras.
Jean Vanier, c'est l'histoire d'un géant aux yeux bleus rieurs et aux sourcils broussailleux qui voulait changer les regards sur les personnes handicapées mentales pour une société plus humaine. C'est ce qu'il répétait inlassablement, comme ici en 2017. C'était justement à Trosse-Libreuil, le village depuis lequel il avait fondé son association.
Je réalise que le monde changera si on accueille ceux qui ont souffert du rejet, ceux qui sont dans les prisons, des hôpitaux psychiatriques. En chacun, il y a quelque chose de très beau.
Jean Vanier qui passe son enfance entre le Canada et la France, qui s'engage dans l'armée à 13 ans en pleine Seconde Guerre mondiale. Mais il est déjà fervent catholique et à 22 ans, il plaque la marine pour Jésus. Il se forme pour être prêtre, étudie Aristote et devient finalement prof de philo à Toronto. C'est là qu'il découvre les conditions de vie des handicapés dans les asiles psychiatriques. Il veut les sortir de là. Il rachète une maison dans un petit village de l'Oise et s'y installe avec Raphaël et Philippe, malades et handicapé. C'est le début de l'Arche, l'œuvre de sa vie. Jean Vanier qui souffrait d'un cancer. En 2017, il évoquait déjà cette rencontre avec Jésus qui se rapprochait.
En attendant la dernière étape, je peux dire que je rends grâce pour tant de personnes avec un handicap que j'ai connues et qui m'ont transformée.
50 ans après Trosley, il existe 150 foyers comme celui-ci à travers le monde où handicapés mentaux et accompagnants vivent ensemble et où finalement, disait-il, on ne sait plus très bien qui apporte le plus à qui.
Demain mercredi, un épisode pluvieux devrait traverser la France d'ouest en est avec des averses parfois orageuses. Les températures varieront le matin entre 5 et 13 degrés, l'après-midi 15 à 19 degrés, jusqu'à 23 en Midi-Pyrénées. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.